Bah, ça y est, c'est la rentrée. Il est à présent l'heure de retrouver pour une nouvelle saison votre émission Écriture dessinée en compagnie de Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Eh oui, nouvelle saison. Alors, je ne sais plus la combientième c'est. 16, 17, je ne sais pas. Alors, le principe d'écriture dessinée, c'est donc une émission sur le dessin, sur toute sa dimension narrative, avec dans chaque émission un entretien. Si possible en direct, c'est souvent la majorité des cas, parfois l'auteur est en studio, sinon c'est souvent par téléphone. Alors, la librairie La Bestiole à Bieul-le-Fort a ajouté à son programme de septembre une conférence avec l'anthropologue Sébastien Carcel. Il est aussi scénariste de Certao, enquête d'agroécologie au Brésil, dessinée par Laurent Houssin. Il est également l'auteur de l'essai Cosmopolitique de l'agroécologie, enquête au nord du Minas Gerais, aux éditions Mimesis. C'est à La Bestiole, donc, le vendredi 12 septembre à 19h, qui est une librairie installée à Bieul-le-Fort. Alors, pour l'occasion, eh bien, nous serons avec Sébastien Carcel vers 14h15. Il va nous éclairer sur ce qu'est l'agroécologie, mais nous guider aussi dans l'écriture de ce qui n'est pas seulement un documentaire dessiné, dans ce récit de vie aussi, qui se déploie sur plus de 200 pages et qui est tout à fait étonnant. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Alors, de temps en temps, je vous fais le coup de vous faire des annonces d'expos dans des endroits où on a peu de chances de se rendre. Eh bien, ça va être le cas pour démarrer cette première émission de la saison, émission écriture dessinée, parce que les chroniques ont déjà commencé hier. Et il y a donc deux chroniques du dessin qui encadrent l'émission du jeudi. Alors démarre ce vendredi 12 septembre l'exposition de Dave McKean intitulée Thalamus. Ça se passe à la galerie Huberti et Brain à Bruxelles. Bien sûr, vous allez y aller demain à Bruxelles. Bruxelles-Châtelain jusqu'au 25 octobre. C'est loin Bruxelles, mais une exposition de Dave McKean, c'est tout simplement un événement. Et pour Thalamus, ça va l'être encore plus. Le livre n'est pas encore sur la boutique de la galerie, ça sera la version française de ce livre d'artiste, mais pas seulement, c'est aussi un recueil, il y a du dessin, de la bande dessinée, il y a un récit, mais c'est vraiment un des artistes en bande dessinée les plus féconds de ces 50 dernières années. Donc, Expo Dave McKean à la galerie Huberti et Brain à Bruxelles-Châtelain. Virgule. Vous l'avez constaté, il y a des choses qui n'ont pas changé. Le générique, la virgule des Shadok qui annonce une deuxième virgule qui sera celle des moustiques de Vincent Malone. J'encadre dans chaque émission l'entretien avec différentes bandes dessinées, parfois en lien direct avec celles présentées par l'auteur, mais ça peut être aussi plus éclectique et ça va être le cas aujourd'hui. On va commencer par un comics, Rocketeer, la cargaison maudite. Alors, Rocketeer, c'est un personnage, celui de Clive Secor, qui a découvert un engin, une sorte de jetpack qui permet donc à l'homme de voler. Le récit se passe dans les années 40 et il y a donc toute une iconographie, une esthétique qui est parfaitement en lien avec cette période. On avait eu un premier hommage collectif à Locketeer, cette création de Dave Stevens, il y a quelques mois, et ça avait permis à un très grand nombre d'auteurs de s'approprier un peu la dimension de ce personnage qui n'est pas un super-héros, il n'a pas de super-pouvoir, il a simplement ce jetpack. Alors, les cargaisons maudites, le récit. Donc, le jeune pilote d'avion Cliff Secor a donc découvert ce prototype de fusée dorsale. Il est aidé de son fidèle Peavy, un mécano hors pair. Et donc, Cliff réalise le rêve de tout être humain, voler de façon autonome. En plus de sauver, une fois de plus, sa fiancée Betty. Belle, belle fiancée, des griffes de malfrat à la solde d'espion nazi, Cliff va devoir repousser les avances de la belle Sally, mais aussi combattre de monstrueuses créatures venues d'une île mystérieuse qui abritait autrefois un gorille géant. Alors, c'est l'intérêt des comics, on dégage l'espace narratif, on peut y mettre tout ce que l'on veut, choisir ses ingrédients. Alors là, il y a une teinte de super-héros avec Cliff Secor et sa fusée dorsale, de beaux personnages féminins avec notamment Betty, la fiancée. Et puis là, on a la mafia, une collusion entre la mafia et les nazis à travers quelques espions. Et puis on peut rajouter une sorte de teinte franchement fantastique tirée de l'île maudite avec ce T-Rex qui va apparaître ainsi que quelques autres animaux préhistoriques qui semblent un peu hérités et issus de Jurassic Park, mais en tout cas, ils trouvent pleinement leur place dans ce récit qui est écrit par Mark Waid. Alors, il y a, et ça c'est important, le dessin de Chris Samney, qui est un dessin au trait, assez classique, on en trouve des très proches dans la bande dessinée européenne. Donc le choix, c'est d'avoir un trait de contour précis, trait de pinceau assez élégant, avec des pleins, des déliés, une façon précise et détaillée de camper les différents personnages dans leur gestuelle. Et l'occasion est donnée avec cette fusée dorsale, où là, on a une sorte d'éventail de mouvements appuyés. Et le dessinateur Chris Samney porte ça à merveille. Il y a une façon de découper, de mettre en image, de cadrer qui est très efficace. Et c'est une lecture parfaitement lisible, plausible, et qui fait que le lecteur va, s'il accepte les parties pris narratives de départ, on n'a pas forcément envie d'imaginer ces animaux fantastiques perturber notre quotidien, ou de retrouver ces collusions mafia et ça y est, je perds le fil. Donc, mafia et monstre préhistorique. Et là, ben, une fois que vous avez accepté ce parti pris, le plaisir est grand. Et ce fut mon cas. Une façon de rendre hommage, de poursuivre cet hommage à Dave Stevens, qui est le créateur de Locketeer et qui est décédé en 2008. Et donc maintenant, on peut retrouver ce personnage qui avait été porté à l'écran dans un film plutôt très réussi. Locketeer, la cargaison maudite, est publiée par les éditions Delcourt avec, bien sûr, la contribution d'IDW, IDW qui avait publié la version originale. Les 112 pages de ce récit sont au prix de 17€. La traduction est de Jérôme Wiki. Le lettrage de Moscow A, qui est très efficace dans l'exercice. C'est eux qui portent les lettrages des comics américains publiés par l'éditeur français. Et tout ceci est en cartonné et en couleur. Moustique. On va changer un peu de style. Je voudrais vous présenter le dernier livre, la dernière publication d'un petit éditeur, mais qui fait un travail de fond efficace, pertinent, puissant. C'est un des éditeurs de Manu Larsonnet, par exemple. Il s'agit des Rêveurs, et l'auteur, c'est Salch, qui a publié il y a quelques mois « Comment éduquer ses enfants ? Une méthode simple, accessible à tous ». Alors, quand vous voyez le trait en couverture, on ne va pas s'attendre à des conseils genre Laurence Pernoud, « J'élève mon enfant », qui date des années 60, du début des années 60, mais c'est vraiment un dessin vachard, cruel même, dans des grandes traditions comme celle de Reiser ou de Villemain. Et il y a d'ailleurs un livre de Reiser qui peut être mis en écho avec celui de Salch qui est « Les oreilles rouges ». Dans « Les oreilles rouges », il y a une sorte de leitmotiv où un gamin se prend des baffes à longueur de page par sa mère devant un père plutôt atone. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Nous sommes dans une famille monoparentale, on l'apprendra au fur et à mesure des histoires. Il y a le père et le fils. Deux périodes dans le livre, l'enfance, l'adolescence. Leitmotiv également, comme dans Reiser, titre « Comment éduquer ses enfants, une méthode simple, accessible à tous ». Une dernière image, qui est la même, à la manière de Little Nemo qui se réveille sans arrêt à la fin de chaque page qui était publiée. Là, c'est pas forcément à la fin de la page, mais en tout cas à la fin de chaque récit. Le père passe par la fenêtre son fils à grands coups de latte. Donc, il faut que ça tienne, il faut que le dessin porte ça, il faut que le texte porte ces relations, ces discussions un peu difficiles entre l'enfant et le père, entre l'ado et aussi et encore son père. Donc, Salch va passer les différentes questions récurrentes de l'enfance, du passage à l'adolescence, comment il y a des questions sur le pourquoi des choses de la part des enfants, sur toutes les questions sur aussi ranger sa chambre, comment arriver à ce que l'enfant range sa chambre, l'enfant aide à étendre le linge, par exemple, faire un peu de vaisselle, et puis les notes, le carnet de notes. Tout ça est parfaitement exploré par Salch, et ça se termine. Il passe par la fenêtre, quoi. Il se prend un coup de latte une nouvelle fois. Adolescence. Alors là, c'est plus tout à fait le même ton. Parce que là, le gamin, il lâche rien. Il veut pas transiger. Donc, il insiste. Et là, la méthode est la même. La fin de l'histoire est la même. Et donc, en fait, c'est humoristique, c'est ironique, c'est satirique, c'est vachard. Mais c'est aussi une façon de dire... Il n'y a pas de soumission à avoir avec ses enfants. Il y a des choses sur lesquelles il faut tenir pour leur bien, pour leur épanouissement. Alors ça, ce n'est pas du tout dit dans le bouquin si ça a marché ou pas. Mais en tout cas, le père, il tient. Il tient bon. Alors, c'est caricatural, c'est ironique. Salch a un dessin à l'énergie où la caricature est vraiment présente. Donc, la gestuelle va être directe, elle n'est pas sur un principe de réalité, mais on est constamment dans cette exagération à la fois des expressions, des propos et donc des gestes qui fait que la lecture est immédiate et l'effet, et là aussi, porte rapidement. Il n'y a pas de cadre autour des cases, donc Salch a parfaitement organisé son récit pour que les bulles soient bien attribuées à chacun des personnages, qu'elle intègre bien la case et que la lecture se fasse sans aucun problème. Il y a aussi toute une variation sur le lettrage qui fait merveille. Ben voilà, moi j'avais envie de vous partager ça. Comment éduquer ses enfants ? Une méthode simple, accessible à tous, sur laquelle je suis sûr chacun prendra le recul nécessaire. C'est publié par Les Rêveurs. Les 84 pages de ce récit sont au prix de 20 euros. Musique. Sertão, enquête d'agroécologie au Brésil, est bien plus qu'un documentaire dessiné. C'est un récit de vie. Celui de Sébastien Carcel, anthropologue, parti au Brésil pour faire sa thèse et étudier l'agroécologie, une forme d'agriculture écologique alternative. L'auteur a détaillé dans un essai cosmopolitique de l'agroécologie, enquête au nord du Minas Gerais, paru aux éditions Mimesis, où il expose la vocation des agriculteurs engagés dans cette pratique, sa dimension politique avec son enquête dans le cas Tinga et les liens puissants avec la religion. Nous retrouvons certaines de ces données qui nous permettent de découvrir, dans certains hauts justement, les enjeux considérables de l'agroécologie par les acteurs pour et par les acteurs locaux, jusqu'à l'internationalisation, jusqu'à l'international et pour aussi les enjeux pour notre planète. Tout comme dans Maos d'Art Spiegelman, Certao est un récit de vie. Sébastien Carcel est en scène, anthropologue et prêtre, découvrant dans ce pays phare du Nouveau Monde les bouleversements profonds que fait naître ce voyage, cette thèse, ces entretiens, ces rencontres. Doute grandissant, crise de sa vocation de prêtre, dépression. C'est Laurent Oncin qui met en image et en scène toutes les facettes de ce parcours de vie. L'image dessinée apporte la puissance de sa représentation. Nous sommes aux côtés de Sébastien Carcel tout au long de ces quelques années. Avec un trait précis, détaillé, donnant au personnage une forme ironique, teintée de caricature, gardant le réalisme appuyé pour les décors, jouant habilement avec le noir et blanc et les couleurs, créant ces images propres à la bande dessinée. Nous sommes avec Sébastien Carcel pour qu'il nous guide dans ce Brésil, loin des clichés et des cartes postales. Bonjour Sébastien Carcel.
Bonjour Bruno Canard.
Alors, ces deux livres, l'un à côté de l'autre, donc l'essai sur la cosmopolitique de l'agroécologie et celui de Certao, qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir pu réaliser ces deux livres conjointement ?
C'est une belle question. C'est beaucoup de travail. Quand je les vois, je mesure le chemin parcouru. C'est un concentré de vie, un peu comme vous le disiez dans votre présentation. Et surtout, c'est beau de les voir ensemble parce que la BD, c'est presque un peu le making-of du livre, qui est un ouvrage scientifique à destination d'un public d'anthropologues et plus largement d'agronomes, etc. Mais c'est un travail, une publication scientifique chez un éditeur scientifique. Et la BD, elle est un peu ce que suppose ce qu'il y a en coulisses pour réussir à faire ce travail que disent pas forcément les anthropologues, c'est que c'est souvent une épreuve existentielle, un terrain ethnographique. En tout cas, c'est un moment de transformation profonde.
Alors, Sébastien Carcel, quels étaient vos liens préalable avec la bande dessinée, comment elle croisait votre parcours ?
Je peux vraiment pas dire que j'étais ni un spécialiste, ni un expert, ni un féru de BD. En fait, j'ai découvert le roman graphique assez tard par deux lectures concomitantes qu'un ami jésuite d'ailleurs m'a prêté, qui était Chronique de Jérusalem de Guy Delisle et puis Les Ignorants d'Étienne Davodeau. Les deux ont eu un effet très fort sur moi de puissance en fait de ce média pour faire passer des récits de vie. Dans les deux cas, c'est le récit d'une initiation. C'est même le sous-titre des Ignorants, Initiation croisée. Et voilà, donc j'en avais eu une espèce de coup de foudre, mais sans pouvoir dire que j'étais un très grand lecteur. Après, évidemment, plus jeune, j'ai beaucoup lu de BD plus classiques, franco-belges, des Tintins évidemment, mais le roman graphique dans sa forme moderne, c'était assez peu de temps avant de partir au Brésil.
Sébastien Carcel, comment s'est fait donc l'écriture de Certao, où on va retrouver des données scientifiques, anthropologiques, ethnologiques, mais en tout cas sur l'importance de l'agroécologie, et puis la mise en scène de ce parcours de vie tout au long de la réalisation de cette thèse. Comment se passe l'écriture d'un tel récit ?
C'était une aventure en soi. Alors là, du coup, une aventure à deux, avec Laurent Oncin, qui est un ami. Donc on se connaissait avant même que je ne parte au Brésil. Lui, c'est sa profession d'être dessinateur de BD. Et au moment où on se lance dans l'aventure de Certao, il venait de terminer une première BD chez Futuropolis qui s'appelle Le Potager Rocambole, donc déjà sur des questions agricoles, alimentaires et écologiques. pour laquelle d'ailleurs il a obtenu un prix, le prix Tournesol. Donc lui, il est expérimenté, il a de longues heures de vol et années de travail dans la BD, et il m'a vraiment pris par la main et formé à ce métier. En même temps, je crois pouvoir dire, et il le dit aussi, que ça a été une aventure d'écriture à deux aussi pour lui, qui nous a pris presque 3 ans. En fait, on a mis 2 ans à écrire le scénario, et ensuite la troisième année, elle était plus exclusivement pour Laurent, de réalisation des planches finales, puisqu'il y en a près de 240, donc c'est un travail titanesque. Mais l'écriture en soi a été un long processus gestationnel, principalement parce que j'avais pas du tout prévu de raconter ma vie. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, que je vois la complémentarité des deux, c'était pas ça que je pensais faire. En fait, je voulais traduire la thèse en BD pour faire connaître l'agroécologie et essayer aussi de donner des clés pour qui s'intéresse à l'anthropologie sur ce que c'est qu'une enquête ethnographique, faire un peu un manuel qui dirait pas son nom via le roman graphique, parce qu'il me semblait que ça n'existait pas encore dans ce média-là et qu'on pouvait toucher un plus large public. Et donc, en fait, ce qui a bougé pendant 2 ans, lentement, c'est que Laurent a très vite proposé, suggéré, outre les codes graphiques dont vous parliez, sur lesquels on pourra revenir si vous le souhaitez, mais il a surtout proposé une trame narrative en disant, en fait, on va s'appuyer sur le récit d'un personnage, donc il s'appelle Hugo, mais vous avez bien compris qu'il avait certaines similarités avec moi. Mais donc, on va s'appuyer sur le récit de vie d'un personnage pour faire passer des données scientifiques. Et en fait, on pourrait dire, ouais, le pitch, c'est l'histoire d'un gars, il fait une thèse et à la fin, il soutient. Mais c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est l'histoire d'une transformation intérieure, un peu de laisser tomber des idéaux et des images pour en trouver d'autres. Et ce qui arrive au personnage, ben, c'est aussi ce qui doit arriver ou ce qui est en train d'arriver à l'agriculture brésilienne qu'il observe, en fait, et aux agriculteurs et militants de l'agroécologie.
Alors, Sébastien Carcel, assez vite dans le récit, va arriver la question de la religion. On va découvrir que vous êtes prêtre quand vous arrivez au Brésil. Et il y a une sorte de révélation ou de rentrée dans une autobiographie plus appuyée, où le doute va vraiment s'affirmer, il y a la dépression qui arrive. Est-ce que vous avez maîtrisé ces révélations, ou est-ce qu'elles sont venues parce que le récit finalement les appelait et vous incitait à plus vous confier?
Oui, mais c'est clairement la seconde ligne que vous proposez. Moi, je l'ai lâché très doucement et centimètre par centimètre, mais je voyais bien que Laurent me disait, mais tu d'abord, le personnage a un autre prénom, donc vous avez vous très vite fait tomber les masques, mais il me disait, le lecteur, il n'est pas censé savoir que c'est ta vie, c'est l'histoire, c'est un mélange de fiction et de faits réels, mais c'est une BD, voilà, c'est une histoire pour qu'un lecteur ou une lectrice se laisse emporter dans un récit. Lui me disait, mais tu rendras service en fait à d'autres, et puis ça rend service au récit. Et je lâchais du coup des éléments où j'acceptais de ne pas les maîtriser, justement, quand j'étais d'accord avec lui. Donc souvent, il y a eu des longs temps de pause dans l'écriture, d'arrêt où je disais non, ça non. Et puis finalement, en discutant, lui revoyant aussi, en fonction de nos échanges, on faisait évoluer. Et puis quand on arrivait à un moment où on disait, si, ça c'est juste, on peut le dire, et ça fait avancer l'histoire, elle avançait comme ça. Mais on n'avait pas du tout notre scénario écrit à la fin. Au début, on ne savait pas où on irait et par où on passerait. Et d'ailleurs, un éditeur ne le demande pas en BD, c'est assez fascinant, il demande juste l'amorce en fait. Donc l'amorce avait captivé Futuropolis, nous avait dit oui, mais nous-mêmes, on disait, on voit bien, il y avait le livre dont vous parliez, Cosmopolitique de l'agroécologie, mais moi, je ne savais pas du tout ce qui serait révélé ou pas. Voilà.
Alors, comment se travaillent les dialogues, Sébastien Carcel, dans tout le cheminement de l'écriture du scénario? Est-ce que vous les exprimez à haute voix? Est-ce que Laurent Houssain vous donne un retour de ces dialogues? Parce qu'ils sonnent étonnamment justes tout au long du livre.
Bah, merci beaucoup pour ce retour. Alors non, je les ai pas lus à haute voix, ou peut-être à de rares moments au démarrage pour entrer dans la cellule mélodique un peu d'échanges en BD qui sont très courts. En fait, ça suppose d'être extrêmement d'aller droit au but. Et puis j'y allais parfois trop, donc ils me disaient mais attends, il manque le bonjour, que deux personnages qui se rencontrent et que le lecteur ne connaît pas dont il a besoin finalement. Mais à part ça, donc des lectures au début vraiment pour apprendre la musique des dialogues de BD. Et après, en fait, la manière qu'on a eu de travailler, c'est que d'abord on était loin géographiquement l'un de l'autre, donc on s'appelait comme on le fait là aujourd'hui. On a beaucoup échangé par téléphone. Et lui, entre guillemets, me confessait, c'est ce que je lui dis toujours, quoi. Il me faisait parler, raconter des anecdotes. Il me disait, bah, tu vois, ça c'est intéressant, ça pourrait nous servir. Ou il rebondissait sur des gags, qui sont quand même un des nerfs de l'écriture en BD, à travers des petits détails. Par exemple, la trousse qui tombe sous le bureau du directeur de thèse, c'est du fait réel. Voilà, il l'a emprunté, puis il s'est appuyé là-dessus. Et du coup, moi, j'écrivais des textes, et ensuite, lui, directement, les mettait dans un premier crayonné, et souvent, ça les faisait bouger un peu. Ça les faisait bouger parce que leur mise en image éliminait des points où on appelait d'autres, donc je recorrigeais, et c'est dans cet aller-retour que peu à peu, on arrivait à des dialogues qui nous satisfaisaient l'un et l'autre. Mais effectivement, c'est du travail d'orfèvre, c'est-à-dire des fois... Il y a un mot dont, bah, comme quand on écrit de la poésie, quoi, dont on se dit non, celui-là il est en trop, ça colle pas, ou il en faut un autre, ou il faut un adjectif, ou enfin voilà. Donc c'était un travail d'écriture à quatre mains, par lequel le passage par le dessin faisait forcément transformer le texte un petit peu, c'est clair.
Sébastien Carcel, je vous propose une pause musicale. On va donc se retrouver dans quelques minutes. À tout de suite.
À tout de suite.
Ambiance brésilienne. Donc, vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Sébastien Carcel à l'occasion de la sortie de Sertao, un roman graphique en quête d'agroécologie au Brésil, mis en image par Laurent Houssin, et puis à l'occasion aussi de la conférence qu'il va donner à la librairie La Bistiole demain à 19h. Sébastien Carcel, comment visualisez-vous les pages? Est-ce que vous avez déjà une visualisation ou est-ce que vous livrez simplement comme document une suite dialoguée ou comment ça se passe de votre côté?
Alors, d'abord, je vous remercie pour la playlist hein, et l'ambiance musicale par laquelle vous permettez de faire découvrir ces morceaux qui nous emmènent dans le nord du Minas Gerais. C'est en particulier ce morceau, j'espère qu'il aura pu rejoindre des auditeurs parce que je l'aime beaucoup, il me touche beaucoup et je l'ai beaucoup entendu là-bas. Et du coup, en entendant de la musique, on visualise aussi, donc pour faire le lien avec la question de la visualisation, ça a bougé au long de l'écriture. En fait, vraiment, je peux dire que, de nouveau, Laurent et cette expérience m'a formé un peu à la BD. Et on s'était fixé comme code graphique d'avoir une structure de page la plus simple possible. Donc, ce qu'on appelle le gaufrier, hein, 6 cases et réparties sur 3 strips. Donc, une structure très simple à partir de laquelle on jouerait. Donc, ça, c'était un choix, une proposition de Laurent, à laquelle j'adhérais complètement. Et au départ, j'envoyais des dialogues. Et c'est vrai qu'à partir du troisième ou quatrième chapitre, je pense la BD en compte 9, je commençais à rajouter des didascalies, en fait, comme si j'écrivais du théâtre, en disant, voilà, strip 1, voilà ce que je te propose comme scénarisation. Ça commençait à ressembler presque à un scénario de cinéma, parce que je commençais à voir ce qui peut tenir sur une planche ou pas, et sur une séquence de 3 ou 4 doubles pages, qui est l'autre après la case, en fait, et la page, l'autre unité un peu de base narrative, c'est les séquences. Un chapitre va compter 3 ou 4, voire 5 séquences, mais il ne peut pas en avoir beaucoup plus que ça. Ça veut dire 4 unités de lieu où se déroule une action. Donc oui, au bout de 3-4 chapitres, je commençais à rentrer dans cette mécanique-là. Et dans ce rythme-là, et donc à pouvoir lui dire, bon bah là, pendant 2-3 pages, voilà l'action où elle se passe. Et puis il m'est arrivé du coup, mais plutôt dans la deuxième moitié de la BD, quand on arrivait vers la fin, de même de proposer des dessins, de lui dire voilà comment je vois le plan, la scène, de faire des croquis. Et sur une séquence, même de lui dire, je pense qu'on pourrait jouer sur ce que tu as fait et de l'avoir redessiné. Puis évidemment, il l'a repris et transformé bien mieux, hein, mais voilà, c'est une des planches sur le récit des Mysticas par les agronomes du CA à Hugo, donc de ce centre agroécologique, où on joue, du coup, il y a un jeu porté d'ombre chinoise, et ça c'est une idée voilà, dessinée qu'on a eu ensemble, et je suis content parce que c'est une des petites touches visuelles que j'ai pu apporter, de lui dire jouons sur la projection de la lumière sur le mur.
Sébastien Carcel, il y a un point fort dans Certao, entre autres. C'est celui de la représentation de la dépression. Oui. Il y a des cases très, très importantes qui montrent cette très grande qualité de la bande dessinée à représenter ces moments de bouleversement intérieur très forts. Alors là aussi, comment c'est organisé cette représentation et comment y avez-vous participé? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté aussi?
Bon, c'est une question pas évidente, hein, et puis effectivement très, très intime. Je dois dire là, vraiment rendre hommage à Laurent, parce que c'est un être extrêmement empathique. Et il a pu dire à l'occasion de la sortie de Certain à plusieurs reprises, j'ai pu l'entendre dire qu'il n'avait dessiné que des choses qu'il avait pu ressentir de l'intérieur ou comprendre de l'intérieur. Donc le personnage tient finalement autant de moi que de lui. C'est un personnage médiateur entre nous deux. Donc là, c'est vraiment Laurent qui a eu des trouvailles géniales. Par exemple, alors c'est tout bête, hein, mais moi je disais, c'est vrai que dans la chambre où j'étais, il y avait toujours des cafards. Je revenais de terrain, j'ouvrais, il y avait des cafards. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais t'es entouré de cafards, t'as le cafard, bon bref. Et donc il a joué là-dessus, sur cet animal qui grandit de plus en plus et qui finit par écraser le personnage dans son ambiance intérieure, dans sa petite chambre. Il a joué aussi beaucoup sur l'espace autour du personnage, c'est-à-dire la chambre qui devient de plus en plus obscure, les ouvertures, les ouvrants qui sont de plus en plus fermés ou avec des barreaux, tout ce qui permet de ressentir un étouffement en fait du personnage et pour le lecteur de ressentir ça. Et lui, il a dit, il faut que ça vienne très tôt dans la BD pour que justement après le personnage puisse renaître, qu'on respire quoi. Donc, ce qui est fort, je trouve, dans certains, c'est que ça commence avec des jolies notes de bossa nova et puis on dirait qu'il y a des cordes qui cassent dès le début quoi. Très vite, on entend des dissonances. On dit mais c'est bizarre, vers où part ce récit quoi. Voilà. Et puis l'autre chose que j'ai apprise par Laurent et dans cette expérience, c'est que peut-être c'est vrai aussi hein, du cinéma et d'autres arts, mais il me disait souvent la spécificité de la BD, c'est l'ellipse. C'est tout ce qui n'est pas dit, en fait, qui n'est pas représenté, et que le lecteur va combler, ou la lectrice. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent là dans les non-dits, dans l'ellipse, où on perçoit et on projette soi-même comme lecteur ce que le personnage est en train de vivre. Par exemple, quand il est au bout de son lit, au plus profond du creux, et on se dit, mais il a l'air au bout d'un perchoir dont il va sauter, en fait. Ça, c'est des trouvailles graphiques de Laurent.
Alors, il y a tout au long de ce récit, cette présentation de l'agroécologie qui, au moment de la chute de Dilma Rousseff et l'arrivée donc de Bolsonaro au pouvoir. Alors, aujourd'hui, avec le retour de Lula, comment ça se passe? Est-ce que ça, elle a pu retrouver toute son ampleur? Et par exemple, le CA, le centre qui vous a accueilli, qui avait beaucoup moins de moyens, est-ce qu'il a pu retrouver une action? Et quel espoir pour vous représente l'agroécologie? Alors, c'est bien que on n'a pas le temps de la conférence que vous aurez ce soir, mais voilà, c'était important peut-être de parler de cette dimension de Certao aussi.
Oui, tout à fait. Ben, c'est clair que bon, ça, c'était pas prévu à l'avance, mais mon travail d'enquête ethnographique qui s'est déroulé donc entre 2017 et 2019, ça colle pile poil au milieu. Il se trouve qu'il y a l'élection de Bolsonaro, donc j'ai assisté un peu en direct à cette descente aussi aux enfers politiques, hein, en tout cas pour ceux avec dont j'étais proche et avec qui dont je partageais l'existence. Ça aussi, ça participait de cette première partie de la thèse qui est très plombée. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous dire qu'on a retrouvé la splendeur du premier Lula, entre guillemets, c'est-à-dire les collègues que j'ai agronomes dans les différents centres un peu équivalents du CA ou qui travaillent pour l'agroécologie disent qu'après 2 ans de mandat, ben, c'est difficile, il n'a pas le même contexte économique et politique, ni lui, ni Dilma, qui ont porté en fait les politiques agroécologiques au pinacle hein, des années 2003 à 2013. Donc il y a des choses qui sont revenues, quelques politiques publiques importantes en faveur de l'agroécologie. En revanche, les centres, les agronomes, les militants, je pense, souffrent encore cruellement de manque de moyens.
Qu'est-ce que ce livre va changer pour la suite ? Est-ce que vous allez reprendre une écriture dessinée comme celle de Certao? Comment il a dégagé l'horizon à Sébastien Carcel?
Le mien, vous voulez dire?
Oui. Ou les vôtres, hein, parce qu'on peut mettre aussi votre travail universitaire dedans.
Oui, ben. Alors bah, d'abord, il faut que je vous partage une joie et puis qui rend d'autant plus sympa le fait de pouvoir faire une conférence demain soir à la Bestiole, c'est que Laurent est actuellement lui-même au Brésil pour la sortie, également en portugais en fait, au Brésil de cette BD, qui porte le même nom mais qui a un autre sous-titre, valorise donc d'autres éléments que la quête hein, existentielle, dans le sous-titre il y a agroécologie, résistance et foi, donc cette dimension religieuse très importante. Donc là, il est pendant 2 mois en tournée au Brésil pour le lancement. Ce soir, donc lancement à Sao Paulo 11 septembre. Donc on est vraiment très content dans le cadre du salon du livre et puis de la saison culturelle France-Brésil en 2025. Donc tout ça, d'abord, c'est pour nous c'est énorme parce que c'est rendre finalement au Brésil ce qui nous a permis d'écrire, de vivre et de comprendre. Et puis pour moi, c'est la joie de savoir que cette BD emmène à son tour Laurent là-bas, avant que je ne l'y rejoigne dans quelques semaines. Donc ça, c'est déjà beaucoup, d'autant que ça a été l'occasion pour nous de monter une exposition pédagogique, en fait, sur les écritures et le récit, l'agroécologie comme récit, comme un projet politique, un récit collectif que l'on écrit sans cesse, l'écriture ethnographique aussi, évidemment, et puis la fabrique des BD. Donc on a appelé ça le carrousel des récits, on a monté une exposition itinérante, du coup, qui va se déplacer dans le Brésil. Et on espère d'ailleurs en faire une version française qui reviendra du coup aussi ici. Donc ça, c'est déjà un premier horizon pour nous, collectif, c'est de continuer à faire connaître des résultats, des idées, à promouvoir l'agroécologie, à promouvoir l'anthropologie, à promouvoir le roman graphique auprès du public scolaire, par exemple, par cette exposition pédagogique et artistique, quoi. Voilà, donc ça, c'est à très court terme, ça nous occupe beaucoup et ça nous réjouit beaucoup. C'est sûr que la question de prolonger quand on a goûté à cet exercice est très tentante, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi pouvoir avancer dans la recherche. Je pense que j'ai besoin de maintenant d'autres données, d'autres terrains, d'autres éléments d'enquête pour, s'il fallait, prolonger l'histoire, à moins de partir sur du coup quelque chose de plus fictionnel, en s'appuyant sur des données existantes aujourd'hui, mais ma sensation, c'est que la réussite de certains, c'est qu'elle s'appuie sur un vrai travail scientifique de longue haleine, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Carcel. Je vous rappelle votre conférence demain à 19h à la librairie La Bestiole à Viol-le-Fort. Donc, on pourra vous rencontrer et aussi discuter à la fois de votre essai et de Sertao avec Laurent Roussin, donc, qui a mis en image et qui est donc au Brésil. Alors, Sertao, enquête d'agroécologie au Brésil, est publié par les éditions Futuropolis, mis en image et mis en scène par Laurent Houssin. Je crois, les 240 pages, j'ai plus tout à fait le prix. Mais peut-être vous l'avez, vous. Mais
oui, je crois qu'il est vendu à 26 euros.
Voilà, 26 euros, ce qui est tout à fait raisonnable compte tenu de la qualité de la fabrication de ce très beau livre. Merci. Et à demain, donc, Sébastien Carcel.
Et bonne journée à tous les auditeurs. Au revoir.
Merci, au revoir.
La belle des jours. Sur la plage de Boavia, un après-midi merveilleux d'un dimanche bleu. Et bleu était la couleur de ton âme qui m'a envoûté. Dans l'après-midi d'un dimanche bleu, comme un cadeau silencieux, mon bel amoureux, mon bel homme heureux, mon bel homme heureux. Et je me souviens de ce bel homme de la plage de Boavia. Cet homme apparu tel un ange un dimanche bleu. Et bleu était l'homme de jour, sa beauté m'a envoûté. Dans un rêve bleu ciel d'amour, il m'a fait voyager tout le jour. Mon bel amoureux,
belle des jours, oh, belle des jours. La belle des jours era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues. Mas Belle de Joux no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de domingo azul. La Belle de Joux.
Alors, pour finir l'émission Écriture dessinée, la règle que je me suis fixée, c'est de finir avec un livre qui sort encore plus de l'ordinaire par sa dimension, son intensité, ses qualités. Et ben, je vais continuer cette saison avec ce principe-là et vous présenter un livre que je n'avais pas pu évoquer sur cette antenne. C'est Le Voyage de Shuna de Hayao Miyazaki. Alors Miyazaki, tout le monde connaît ses films d'animation. Il a fait 11 films d'animation. Le dernier, Le Garçon et le Héron, est sorti en 2023. Et il a eu des récompenses régulièrement. Il y a eu un film comme le Voyage de Chihiro qui a eu un succès mondial. Il a été plusieurs fois récompensé, nominé aux Oscars, le Lion d'Or à Venise, l'Ours d'Or à Berlin. Donc c'est vraiment un artiste qui a donc fondé les studios Ghibli à Tokyo en... C'était en 1985 avec Isao Takahata. Mais Hayao Miyazaki, c'est aussi un auteur de manga qui ont démarré avant. Et c'est intéressant. Il y a eu un manga que beaucoup connaissent, qui s'appelle Nausicaa, qui est une sorte de grande fresque sur un monde futuriste, avec une écriture, une mise en image qui déjà se décalait par rapport au code habituel du manga, où on peut avoir à la fois certains stéréotypes dans la représentation des personnages féminins, de ces traits cinétiques très appuyés dans beaucoup de cases. Miyazaki s'est écarté systématiquement de ça. Le Voyage de Shuna est donc un récit qui est assez ancien, mais qu'on découvre que depuis 2024. Et donc, je tenais à vous le présenter, puisqu'il va y avoir une édition, une réédition au meilleur marché, un plus petit format, mais en tout cas qui va permettre de découvrir ou redécouvrir ce livre. Comme à son habitude, en quelques cases, Miyazaki va poser un univers et un monde qui va tout de suite nous parler, va tout de suite avoir son épaisseur, et le récit va se déployer ici tout au long de ces 160 pages. Alors le récit. Shuna, prince d'une contrée pauvre, regarde impuissant ses sujets souffrir de la faim et se tuer à la tâche. Comment faire pousser les céréales que leurs terres stériles leur refusent ? Un beau jour, un voyageur évoque une graine dorée miraculeuse qui fait onduler les plaines en longues vagues fertiles. Elle proviendrait d'un pays lointain à l'ouest, peuplé d'esprits hostiles à l'homme, dont nul n'est jamais revenu. En dépit des soupirs des anciens et des larmes de son père, Shuna se lance vers cet Eldorado sur son vitel Yakuru, une sorte d'équidé avec de très grandes cornes, comme on en imagine facilement, dans l'espoir d'y trouver de quoi sauver son peuple. En chemin, il libère une jeune esclave, Théa, et sa petite sœur, retenue prisonnière par des trafiquants d'hommes. Poursuivis par leurs ennemis, Shuna confie les deux filles à son Yakuru, qui file avec elle vers le nord, tandis qu'il continue seul à pied vers l'ouest. Quand il atteint enfin la terre des êtres divins, ce qu'il y voit le changera à jamais. On retrouve une dimension très forte dans toute l'écriture narrative, et quel que soit le support de Hayao Miyazaki, c'est ce parcours initiatique. Cette capacité à faire se bouleverser, se transformer ces personnages, et là, c'est vraiment le cas. C'est d'autant plus facile à percevoir que la bande dessinée permet cette contemplation, ce rythme de lecture qui lui est finalement propre. On n'est pas dans ce déroulement obligé de l'image que le cinéma d'animation et le cinéma ont en commun. Mais donc, il y a ces pages, ces doubles pages, avec peu d'images, mais à chaque fois des images qui vont vraiment poser le contexte narratif du récit, où on va avoir les décors, les paysages, ce qui est vu du village, ce que l'on peut imaginer, quelles sont les traditions dans cette contrée désertique, et comment finalement, en se mettant en chemin, il va révéler aussi au lecteur une image d'un monde futuriste, mais qui va être marqué par une vie d'une grande dureté, une sorte de violence inhérente à beaucoup de groupes dans ces situations plutôt post-cataclysmiques. Et Miyazaki va à chaque fois, avec une très grande précision, sans plus d'explications, mais avec un récit fluide et parfaitement cohérent, mettre en scène toutes ces facettes de ces contrées qu'il traverse et des personnages qu'il rencontre. C'est un récit où, en quelques images, vous êtes attaché à Shuna, à son parcours, à sa quête. Quand il va délivrer Théa, là aussi, les deux sœurs vont tout de suite prendre une place dans le récit. Le dessin de Miyazaki n'est pas celui... il est différent des films d'animation. Il n'a pas ce côté très lisse, très efficace du dessin d'animation qui permet finalement la mise en image. Il y a une sorte de très grande propreté dans le trait. Là, avec la bande dessinée, il peut garder un trait qui est moins lisse, qui n'est pas finalement rendu très, très propre. Il garde un côté de l'esquisse, un côté du croquis pour qu'il soit constamment vivant. Et puis il y a la justesse du récit, parce que c'est quelqu'un qui possède parfaitement l'anatomie, les expressions. Il va la représenter et avec juste deux points pour les yeux, eh bien tout de suite les émotions sont là. Le yakuru, par exemple, est un animal, un équidé. Ben, on va tout de suite découvrir sa stature. Il y a des images où il y a cette proximité entre Shuna et son yakuru. Et on le découvre immédiatement, on la ressent, elle est là. C'est un livre aux couleurs pastel d'une grande douceur qui fonctionne parfaitement et qui garde peut-être, grâce à ça, un espoir tout au long du récit que les choses avancent. Mais ça, vous le découvrirez en le lisant. Hayao Miyazaki, le voyage de Shuna, est donc traduit par Léopold Dahan. C'est publié par les éditions Sarbacane. Il y a eu donc cette première édition en 2024 et cette réédition prochaine pour le 24 septembre. La première édition était au prix de 25€ pour ses 160 pages. Et là, la réédition sera au prix de 15€. C'est publié, c'est imprimé en France. Et beaucoup considèrent que ce voyage de Shuna est un des chefs-d'œuvre de Miyazaki. Merci Fabien pour cette première émission. Je vois qu'il est 59. C'est le moment du générique et on se retrouve la semaine prochaine. Et cette fois, on parlera de l'Orbise, un nouveau lieu d'art qui se trouve à Pondéro. À la semaine prochaine.
Écriture dessinée.